mon petit bonhomme. Oui, mon petit bonhomme, bravo.
Voilà, bah comme promis, donc après Éric Boyer, on va vous offrir Henri-Émile dans la première émission Tribune Foot de la saison. Hein. Henri-Émile, ex-intendant de l'équipe de France de football, qui prendra lui sa retraite à la fin de cette année et qui eh bien, a décidé de rejoindre Montpellier. Alors on voulait lui rendre un hommage en cette année 2008 particulièrement riche et chargée pour le foot français, hein, puisque l'équipe de France sera en phase finale de l'Euro, mais aussi pour déjà fêter la victoire de l'équipe de France de foot au Mondial 98. Ça fera 10 ans, le 12 juillet prochain. Alors auparavant, on va quand même revenir sur les lauréats de l'année sportive 2007, hein, pour bien compléter, comme je vous l'avais dit au début de cette matinée sportive, la rétro sport qu'on vous avait offerte il y a 15 jours. On vous avait d'ailleurs donné et pronostiqué les lauréats pour cette année 2007. Le champion des champions, c'est pas une surprise, c'est Roger Federer qui s'impose très largement avec 854 points devant Michael Phelps 447 et troisième Loeb et Helena 261 points. Kaka, donc le footballeur, meilleur footballeur de l'année, termine 8e avec 179 points. Et Loeb et Helena, ils sont d'ailleurs les champions des champions français avec 672 points devant Tony Parker, 2e, 580 points et 3e, donc Laure Manaudou, 509 points dans ce plateau particulièrement relevé en cette année 2007, même si le sport français n'a pas été particulièrement brillant. Thierry Henry termine 5e avec 233 points. Et puis on va rappeler, hein, qu'en matière de foot, c'est le Milan AC naturellement qui a écrit la plus belle performance de l'année en s'imposant en Ligue des Champions 2-1 devant Liverpool. C'est l'équipe de l'année, c'est pas donc une surprise de voir Kaka ballon d'or avec 444 points devant Ronaldo, le portugais du Manchester United, 277 points, et troisième donc Messi, 255 points. Et puis meilleur joueur FIFA, et eh bien c'est toujours Kaka qui s'impose, cette fois-ci devant Messi et Ronaldo, Franck Ribéry ayant été naturellement choisi meilleur joueur français. Quant à l'équipe de Lyon, elle est la meilleure équipe française de la saison suite à son 6e titre consécutif de championne de France. On va donc maintenant rendre hommage à, eh bien, au football français dans son ensemble à travers Henri-Émile, que nous avions été rencontrés à l'occasion des 30 ans de l'US Poigny-la-Forêt. C'était une émission qui était faite grand public en direct depuis Poigny le 16 septembre dernier. Alors le départ d'Henri-Émile, le départ programmé pour la fin 2008, conjugué à celui de Philippe Tournon et d'Aimé Jacquet il y a un an, est-ce que ça ne marque pas la fin d'une époque pour le foot français?
Mais on en parle, mais moi je ne le ressens pas comme ça pour l'instant.
Ouais.
Je me sens en pleine activité. Ça a été le cas tout l'été avec le Bishoker, avec les frères Cantona au niveau de la compétition ou la tournée des plages de la fédération. Mais c'est vrai que dans la direction technique d'aujourd'hui, bon, y a une page qui a été tournée avec Aimé, avec Jean-Pierre Morland dans un, deux ou trois mois maximum. Moi, j'arrive derrière, il y avait Claude Dussault, qui était le directeur de l'INF, que vous avez connu ici, dans la région de Rambouillet, qui également est parti il y a 2-3 ans. Voilà, bon, mais c'est la logique de... On est 13 entraîneurs nationaux, il y a des plus jeunes qui sont arrivés, c'est la logique de tout fonctionnement.
Oui, alors Gérard Rouillet va revenir à la DTN dans quelques jours. Vous avez travaillé ensemble quelques mois?
Oui, j'étais même son adjoint en équipe de France. Disons qu'on a un affectif très fort ensemble. Et ce qui est bien à travers la venue de Gérard, c'est qu'il connaît déjà la maison. Il a eu envie, parce qu'il aurait pu rester à Lyon. Il avait encore un an de contrat, donc il avait coupé ce contrat. Il a eu envie de revenir avec toute une expérience qu'il a vécue maintenant, en particulier à Liverpool, au niveau de l'élite. Et je pense qu'il va y avoir un coup de booster, un peu, qui va amener une impulsion qu'on n'avait peut-être pas dans ces derniers mois là, au niveau de la direction technique, et on verra, mais alors, moi je ne me fais aucun souci là-dessus.
Henri, on n'est pas là pour polémiquer, c'est pas le joueur de la maison, mais on dit que les rapports ne sont pas très bons entre Gérard Rouillet et Raymond Domenech.
Disons qu'il y a
c'est
un différent.
Non, disons, bon,
non, c'est pas. Disons, c'est deux personnes intelligentes, dont il n'y aura aucun problème sur le plan du travail, mais c'est Gérard Rouillet qui a tendu la main à Raymond Domenech quand celui-ci était en dehors de la DTN. C'était Gérard qui était DTN, et après notre élimination qui a été catastrophique et très dure sur le plan humain des États-Unis en 93, Gérard derrière étant DTN en même temps pris l'équipe junior. Cette équipe junior a été championne d'Europe, elle a été faire la Coupe du Monde en ayant moins de 20 ans, a été quart finaliste de cette Coupe du Monde, et en mai 1998, juste avant la Coupe du Monde, Gérard aurait souhaité garder cette promotion dans laquelle il y avait Henri, Trezeguet, Anelka qui avait un an de moins, Sagnol, Landreau, vous voyez, quelques joueurs qui aujourd'hui se retrouvent dans l'équipe de France. Gérard aurait souhaité garder cette sélection pendant 2 ans. Il a demandé à Raymond s'il voulait bien lui laisser cette équipe, sachant qu'il la lui rendrait après, et Raymond a refusé. Ce qui fait que pendant la Coupe du Monde, Liverpool ayant contacté Gérard est parti. Mais sinon, Gérard ne serait pas parti à ce moment-là. Il était fait pour le poste qu'il va reprendre bientôt.
Très bien. Alors, vous repartirez pas avant le fameux 12 juillet 2008 où on va fêter les 10 ans du France-Brésil et de la victoire des Bleus. Hein.
Ça, c'est certain.
Oui,
hein. Ça, c'est certain. Ça, il y aura la Coupe du Monde Bichoker à Marseille 10 jours après, enfin même pas, du 17 au 27 juillet. Mm-hmm. Mais c'est vrai que le 12 juillet, on veut retrouver ce côté fraternel qu'a été le 12 juillet 1998.
C'est un samedi en plus, ça tombe
c'est
bien.
C'est un samedi, et c'est que ce soit une grande fête. Et au Stade de France, où on va faire France 98 contre une sélection mondiale. Mais en même temps, dans toute la France, on souhaite que de partout, on retrouve une ambiance de 98 avec des plateaux de football organisés, avec au niveau du club des matchs de vétérans, des matchs de gamins, enfin que de partout, mm-hmm. dans toute la France, ce soit une journée active avec le soir à la télévision ce match du souvenir qui se veut en même temps un match de la solidarité. Je pense qu'on donnera tout l'ensemble du bénéfice au Restaurant du Cœur ou à une autre œuvre, mais en fait ce sera pour une grande œuvre. Et la veille, je pense qu'on fera également une émission télévisée de variété. Enfin, il y a quelques projets qui
avec TF1, Canal, non?
On va voir, Bon, on a déjà, au CERF, on a fait 4 matchs de bienfaisance qui nous ont permis de donner aux gens, aux organismes qu'on avait choisis, 4 200 000 euros en 4 matchs. Mais si on a eu ces sommes, c'est parce qu'on a la télévision qui nous avait acheté le spectacle. Donc que ce soit TF1 ou Canal+, les deux ont été parties prenantes dans ces différentes actions. Plus le tournoi de Bercy, le futsal qu'on a fait au mois de mars dernier. Alors il est logique qu'on renvoie l'ascenseur vers des chaînes qui nous ont soutenus dans ces actions-là.
Mm-hmm. 98, ça a été le plus fort moment de votre vie professionnelle quand même.
Plus fort moment au niveau de l'impact que ça a représenté et de l'échange d'émotions avec les Français. Parce que c'est la remontée des Champs-Élysées en particulier qui a été quelque chose de fort, avec une décision difficile à prendre, puisqu'on a dû tourner à peu près 400 mètres, 500 mètres avant le haut de de ces Champs-Élysées. Or, on savait que depuis 4-5 heures déjà attendait. Pourquoi on a dû tourner? Parce qu'on allait vers l'accident. Tellement que les gens étaient agglutinés devant le bus, ça aurait été catastrophique que quelqu'un se passe sous une roue et bien sûr, avec les conséquences que ça aurait eu. Donc, c'est vrai que ça a été un grand souvenir, mais vous savez, il n'y a pas de graduation dans la joie que vous pouvez exprimer, que vous pouvez ressentir entre la naissance d'un gamin ou un match que vous allez faire avec des copains. Il y a toujours une forte joie. Le problème de la Coupe du Monde, c'est qu'elle est multipliée par toutes les images de télé, elle est multipliée par le contact avec les gens. Sinon, moi, le souvenir le plus fort, je pense, le plus fort, c'est un peu comme la première fille qu'on a connue, c'est quand avec mes élèves du lycée d'Aigleton, puisque j'ai enseigné 4 ans, mais dans un fief de rugby en Haute-Corrèze, on a été champion de France. Champion de France, on a commencé à parler. L'année d'avant, on avait été demi-finaliste. Champion de France, à 2 ans arrivant là-bas, quel est le prof qui s'occupe de ces gars? C'est un peu comme ça que j'ai trouvé ma voie vers la fédération, avec un poste de conseiller technique régional ensuite.
Enfin, une telle fête. Jamais depuis la libération, il y avait autant de gens qui étaient venus faire la fête dans Paris. Vous pensiez que c'était capable d'atteindre une telle dimension?
Nous, on était dans une bulle, mais à travers les images télé, à travers les témoignages d'amitié, on savait que dans toute la France, c'était quelque chose de fort. Il faut se rappeler dès qu'on a quitté le pour aller au match,
Claire Santerre. J'ai eu du mal à descendre la côte.
aimait me regarder, me dire, mais toi, c'est pas possible. Comment on va arriver au stade? C'est-à-dire qu'on a mis plus de demi-heure pour rien que la descente de Claire Fontaine. Au retour, on aurait pu passer 3 heures. On était bien dans le bus à partager avec les gens qui étaient là un moment de joie. Mais à l'aller, c'était quelque chose qui montrait bien sûr toute l'attente des Français, sans compter le nombre de fax et tout ce qui se passait.
Alors on a retrouvé aussi un peu de cette ambiance en 2006, hein, même s'il a manqué le petit quelque chose à l'arrivée.
Oui, c'est les gens avaient envie, on le sentait, avaient envie de retrouver cette joie, de retrouver ce partage, parce que quand on l'a vécu et quand ça tombe aussi vite derrière, c'est vrai qu'on a envie de temps en temps de refaire la fête. Et on est triste un peu en ce moment, car les différents sports courts ont chuté dans les dernières étapes, et ce temps, croisons les doigts pour que le rugby, après ce premier match difficile, dès aujourd'hui, redresse la tête et reparte de plus belle.
Oui, je sais que vous aimez aussi le ballon ovale. Si l'équipe de France se refait une santé, gagne la Coupe du Monde, vous pensez qu'on peut avoir une fête un peu similaire?
Oui, mais disons, la fête sera similaire parce qu'il y aura la joie et la fierté de partager en tant que Français. Le problème du foot, là où il y a peut-être plus de force, je dirais, c'est en profondeur, c'est le nombre de pratiquants.
C'est un sport mondial, universel.
C'est 4 personnes qui en parlent, entre les parents, le frère ou la sœur. C'est plus l'impact du nombre. Mais la joie, il est certain que les Champs-Élysées, ça klaxonnera de partout et qu'il y aura beaucoup, beaucoup de partage. Ça, c'est certain. Il y a eu une déception. Il y a eu une déception, mais il ne faut pas enterrer ce qu'on espérait de beau à un moment donné. Il faut y croire.
Alors, vous avez connu 6 entraîneurs, l'équipe de France? Henri Michel, Michel Platini, Gérard Rouillet, donc Aimé Jacquet, Roger Lemaire et Jacques Santini. Je suppose que chacun vous a marqué.
Et en plus, il y en a un qui, avec qui je n'ai pas travaillé directement, si ce n'est avec l'équipe de France à la police, où on avait une action parallèle, c'est celui qui m'a choisi au niveau national, c'est Michel Hidalgo.
D'accord.
À qui je dois toute ma carrière, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Mais disons qu'avec Henri Michel, ça a été le premier poste, on nous appelait Sterky Hutch, on était tous les deux en même temps à l'INSEP pour passer notre diplôme d'entraîneur pro, et c'est vrai qu'en plus, on a vécu les Jeux Olympiques avec quelque chose de très fort également, mais totalement différent du reste, dans la mesure où dans la compétition, dans un premier tour, on était sur la côte ouest des États-Unis et on ne se sentait pas dans les Jeux. Mais dès qu'on est arrivé à Los Angeles, le partage avec les autres disciplines, en particulier avec les basketteurs au départ, mais en allant voir toutes les compétitions, ça a été quelque chose de particulier. C'est vrai qu'en plus, comme on ne nous attendait pas, bon, ça a été une belle fête, mais quand vous parliez tout à l'heure de souvenirs, le problème, quand vous restez, et tant mieux, je suis resté 20 ans dans un staff, c'est que derrière une grande compétition, 15 jours après, déjà, il vous faut lancer la reprise avec...
Ça fait comme nous, journalistes. Hein. Ouais. Un événement se termine, on est déjà projeté dans le suivant.
Moi, j'ai toujours fonctionné avec une projection, puisque j'étais dans l'organisation aussi de la vie de l'équipe. Ouais. Du moins, au départ, j'étais entraîneur adjoint. Et très vite, je suis allé vers cette fonction, mais le moment immédiat, on aimerait des fois le vivre et poser un peu les pieds, surtout quand il est beau.
Enfin, on croit savoir que vous êtes celui qui avait le meilleur carnet d'adresses. Hein. Tous les joueurs, vous les connaissez de cette génération actuelle?
Génération actuelle, les plus jeunes, non. Je les connais, mais ça. Parce que la facilité que j'ai eue quand j'ai commencé avec Henri Michel. Ouais. C'est que pendant 8 ans, j'avais été entraîneur adjoint de l'équipe Espoir, de 76 à 84. Donc tous les jeunes que j'ai trouvés en équipe de France, c'est les gars que j'avais eu dans l'âge où c'est fabuleux, vous êtes encore dans la formation, vous sortez de la formation, vous êtes déjà dans l'équipe Espoir, qui à l'époque vivait à côté de l'équipe A. C'est d'ailleurs que le premier jour de stage, on faisait un match, Léa contre les Espoirs, sur un entraînement, voyager avec, c'était vraiment deux équipes totalement liées. Donc le passage, si vous voulez, de ma présence avec l'équipe A était quelque chose de naturel. Alors aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il y a, j'ai pas peur du mot, il y a un affectif, il y a des rapports personnel avec beaucoup de joueurs de plusieurs générations. Hier à Auxerre, hier matin, j'ai rencontré William Ayache qui commentait le match d'hier soir pour Canal entre Auxerre et Nice. Et il m'a dit, Riton, quand est-ce on regroupe l'équipe espoir? Parce qu'il faut qu'on arrive. On n'a jamais été regroupé depuis. En plus, il boude un peu sur une chose qui avait été écrite dans l'année, c'est que ben, c'est les seuls qui n'ont pas eu la légende d'honneur par rapport à tous les Olympiques qui, depuis, reçoivent cette
marque de reconnaissance. C'est une génération qui a été oubliée, quoi.
Voilà, c'est une génération qui a été oubliée parce que ce n'est qu'après qu'il y a eu cette habitude de mettre en avant au niveau de l'État et de c'est le côté des sportifs qui réussissent au plus haut niveau. Mais c'est pour vous donner un exemple, sinon c'est vrai que en particulier avec Zizou au dernier en Algérie au mois de décembre, on avait organisé son voyage et vécu quelque chose de très fort.
Alors après il y a eu le départ en 2004, ça a été difficile quand même.
Ça n'a pas été difficile de partir, j'avais fait 20 ans. Ouais. C'est la façon dont ça s'est fait qui a été... Bon, c'est passé, c'est vrai que pendant 3-4 mois, ça a été dur pour moi, dans la mesure où Raymond Domenech, en posant candidature, m'a appelé tout de suite. Il m'a dit, je compte sur toi, pour si j'ai la chance d'être désigné. Et s'il me dit qu'il compte plus sur moi au moment où il est nommé, ça ne me gêne pas parce que c'est moi à ce moment-là qui annonce mon départ et c'était logique que je laisse la place à un plus jeune ou à une autre organisation. Je vous dis, j'avais fait 20 ans. Par contre, il me l'a dit 17 jours après, au moment où il annonçait l'organisation de son équipe. Et là, ça voulait dire que j'étais viré. Et ça, je l'ai jamais supporté. Je pardonne, mais j'oublie pas. Et si vous voulez, ça a été dur aujourd'hui. C'est éliminé.
Oui.
Mais ça a été dur à l'époque. Parce que, je vais vous dire pourquoi ça a été dur. Pas par rapport à moi. Par rapport aux gens qui m'ont rencontré et qui me plaignaient. Or, moi, j'ai vécu des choses tellement fortes, mais je ne veux pas qu'on me plaigne. Je suis le plus heureux des hommes dans mon boulot, dans tout ce que j'ai pu connaître. Et il n'y a que de la joie, même dans des moments qui ont été difficiles. Parce que dans ce qu'on a pu partager dans des moments difficiles, à la sortie, vous gardez des points positifs. Donc, moi, c'était cette chose-là qui me chagrinait, le regard des gens par rapport à moi. Et en plus, à Clairefontaine, il y avait une nouvelle organisation où on ne pouvait pas passer devant le château pour aller déjeuner. Vous n'avez pas vécu 20 ans avec un groupe et vous sentez...
Non, c'est sûr.
Plus dans votre maison, ça aussi c'est quelque chose de dur, mais c'est du passé.
Les matchs de l'équipe de France, vous les suivez comment aujourd'hui? Vous allez encore au stade ou vous préférez rester à la maison?
Non, dès que je peux, je suis au stade. Mercredi dernier, j'étais au stade, France-Italie, j'étais encore dans le midi, j'étais devant la télé, mais non, dès que je peux, je suis membre de la DTN. Je suis supporter, je veux bien sûr la victoire de l'équipe de France, mais je regarde le match plus avec l'œil du technicien qui regarde, parce qu'après il va y avoir discussion avec l'entraîneur, le comportement de tel ou tel joueur, c'est de manière plus globale. Je me refuse à un jugement après en parlant avec les gens, en disant on aurait dû mettre un tel à la place d'un tel.
C'est toujours facile.
Ça, c'est plus mon problème. En plus, moi, ce qui m'intéresse, c'est le jeu, c'est la manière dont l'équipe va s'exprimer, c'est la manière dont l'adversaire va jouer pour que le spectacle soit beau. Le reste, c'est secondaire.
Alors, vous en pensez quoi de ces deux matchs de l'équipe de France, cette défaite contre l'Écosse qui a fait le match parfait? 1-0, et puis l'équipe de France qui est allée faire auparavant un 0-0 dans une sorte de non-match quand même.
De non-match, mais non-match surprenant de la part de l'Italie, parce qu'autant l'année dernière, j'étais certain, moi, même si on n'est jamais certain en football, mais j'étais certain qu'on battrait l'Italie qui... Il y a toujours un côté euphorique quand vous avez un titre. Donc c'est très dur de vous remettre en route. Ouais. La préparation est un peu coupée parce que vous avez plus de vacances de votre club puisque il a été champion, vous avez des obligations qui arrivent derrière. Et il n'avait pas commencé le championnat l'année dernière. Donc il y avait plusieurs éléments qui faisaient qu'obligatoirement on aurait une équipe sans rythme en face de nous. Cette année, au contraire, je m'attendais à un match très dur. Très dur, pourquoi? Parce que, bon, c'est quelque chose qui avait été absorbé, qui avait été digéré, cette victoire, ça faisait plus d'un an. Et le championnat a débuté avec deux journées d'avance par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire, les joueurs avaient, au niveau du rythme, un rythme nettement supérieur à l'année dernière. Or, ils ne l'ont pas montré sur le terrain. Je pense que cette équipe d'Italie a craint l'équipe de France. elle a été craintive et elle a mis trop longtemps à est-ce qu'elle pouvait, ça je ne sais pas physiquement, mais elle a mis trop longtemps à vouloir vraiment gagner le match. Je pense qu'elle a joué pour ne pas perdre.
Et le match contre l'Écosse, la défaite contre l'Écosse, ça vous
la défaite,
Henri ?
Ça ne m'inquiète pas, dans la mesure où on garde encore la maîtrise de notre avenir, puisque si on gagnait trois matchs, c'est pas quand même le bout du monde de gagner ces trois matchs, on est qualifié. Donc, tant que vous ne dépendez pas des autres, c'est quelque chose d'important. Ce qui est dommage, c'est qu'une fois de plus, comme pour les États-Unis, et j'espère que le scénario sera différent, on aurait pu avoir un dernier match sans pression. Jamais une équipe s'est qualifiée avant le dernier match. Donc on aurait pu dire c'est le dernier match qui compte pas puisqu'on est qualifié et on va trouver le plaisir total à partager avec le public dès le début du match, parce qu'à ce moment-là l'état d'esprit est secondaire, même si c'est si c'est un match qui est en déplacement. Là il va y avoir la crainte du faux pas, et bon, c'est des joueurs d'expérience, beaucoup sont dans des grands clubs pour ne pas dire tous, donc du moins parmi les anciens, c'est cette expérience qui devrait faire la différence.
Certains, on en parlait, hein, après le match, on dit oui, on tire pas assez, on ne sait pas bien tirer les corners. Vous en pensez, vous, quoi, le technicien ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le technicien ?
Ben, disons que le gros problème, c'est le manque de duel gagné, de volonté de dribble, de volonté pour qu'il y ait des centres, pour qu'il y ait des corners, encore faut-il qu'il y ait des débordements, qu'il y ait des tirs. Mais c'est vrai qu'on a eu une équipe qu'en dehors de Ribéry, qui a plus eu tendance à faire tourner le ballon qu'à provoquer dans une défense qui était renforcée, mais ça c'est avec l'entraîneur qu'il faut discuter pour voir le pourquoi de cette chose.
Bien sûr. Alors on va remonter un peu le temps, vous l'avez dit, vous avez commencé donc comme prof de gym, c'est ça ?
Prof de gym, oui.
Et comment on en arrive après, comme ça, dans le foot ? Comment ça se fait,
le passage ? Moi, dans ma formation, j'ai été stagiaire pro un an à Montpellier, après avoir joué en CFA à Albi. Et j'ai eu conscience, bon, puisque Hugues Favre, qui était entraîneur qui avait succédé à Mirouz, qui était entraîneur à Montpellier, voulait me faire signer un contrat professionnel, mais j'avais conscience que je serais un professionnel moyen de deuxième division. Donc j'ai passé le concours d'entrée au CREPS, où j'ai été reçu, et j'ai eu envie d'être enseignant, mais avec l'idée de très vite devenir entraîneur et d'être dans un club d'un certain niveau au départ. Bon, mais c'était la voie que je m'étais tracée. Donc j'ai été reçu, j'ai été nommé à Haute-Corrèze dans un petit village qui s'appelle Aigleton, que j'avais couché à Tulle en croyant qu'il n'y avait pas d'hôtel quand j'étais allé visiter. Depuis, il a été un peu plus, cette ville a été un peu plus connue, puisque Chirac était député à Ussel, à 30 km de là, a eu un accident un jour dans cette ville, donc on n'a pas un peu plus parlé d'Aigleton. Mais pour les gens des travaux publics, c'est là qu'il y a une école privée de formation de conducteurs d'engins qui, à l'époque, formait au niveau national les plus grands techniciens. Donc j'ai enseigné 4 ans. En 4 ans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai été deux fois demi-finaliste et une fois champion de France scolaire. Donc très vite, on s'est intéressé au niveau de la Ligue du Centre-Ouest à moi pour me faire encadrer des stages. L'inspecteur pédagogique m'a demandé de faire un recyclage d'enseignants alors que j'étais tout jeune enseignant. Il y a eu donc ce contact fédéral avec le club de Brive qui voulait me faire entraîner, signer entraîneur-joueur. Il y a eu plusieurs éléments qui ont fait qu'après, connaissant Michel Hidalgo, avec qui on avait organisé une soirée débat, qui était entraîneur national dans la région, mais la Ligue du Centre-Ouest m'a proposé le poste de conseiller technique régional. La direction technique avait été créée un an avant, Georges Boulogne l'a créé en 70, c'est en 71 qu'il y a eu ses contacts et je suis entré en 72.
Alors toujours sous l'égide de l'FFF, jamais l'idée de travailler pour un club, vous a tenté, si. On va peut-être le faire. Hein.
Non, maintenant c'est trop tard, ça sera après en dehors. De... Ouais. Non, si, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais le problème quand vous engagez avec un club, on vous contacte au mois de mars, février-mars, vous engagez avec un club, bon, moi chaque fois j'avais des phases finales ou des qualifications, c'est-à-dire que je ne pouvais pas m'engager éventuellement. Si ça m'avait poursuivi à ce moment-là, avant le 15 juillet. Or, c'est trop tard par rapport au club. Mon regret, c'est surtout il y a 3 ans, où avec Laurent Blanc, on avait un ticket pour Marseille, où on a failli tous les deux signer. C'était fin mars quand ça s'est décidé. Et c'est tombé sur une période où l'OM a eu une belle série. C'était Anigo l'entraîneur. Et Boucher, président à l'époque, a eu peur de casser cette dynamique en annonçant notre signature pour le début de la saison d'après. Donc il a voulu reporter la chose, et derrière l'OM n'a pas marché, mais c'était terminé par rapport à Lolo et moi. On avait décidé de pas continuer par rapport à ça. Mais c'est dommage parce que, bon, non pas qu'on aurait transformé les choses, hein, après Limoges, je suis allé conseiller technique régional à Marseille. Donc je connais bien la ville, les médias, je connais tout le fonctionnement du football là-bas. J'ai vécu 7 ans avant de devenir entraîneur national, et je sais que je n'aurais pas changé des influences extérieures, pour ne pas dire plus, qui gravitent autour du club. Par contre, c'était une expérience que j'aurais aimé vivre, ça c'est vrai.
Oui, parce qu'entraîneur de club, c'est le stress au quotidien, hein, par rapport à un entraîneur, un sélectionneur qui travaille un peu plus dans la durée.
Disons que dans le fonctionnement qu'on avait vu avec Laurent, qui aurait pu se faire à Bordeaux, mais Bordeaux n'intéresse pas, mais c'était une protection un peu de Laurent, hein, c'est-à-dire qu'il n'est que le souci de l'équipe, et qu'on fasse un système à l'anglaise, un peu avec une protection totale de l'entraîneur par l'expérience qui est la mienne aujourd'hui. Au moins que je serve à quelque chose avec l'expérience.
Un rôle de conseiller auprès de Loulou, Nicolas, par exemple.
Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Non, mais ça a toujours été prévu, ça.
Oui, oui.
Ça, c'est sûr. Loulou est un ami. J'ai jamais voulu être son salarié. Hein? Sauf, c'est pour ça que je suis aujourd'hui resté, parce que souvent il a voulu me prendre au club. Sauf s'il avait acheté Nîmes, qui me donne les clés. Je pense qu'il y a quelque chose de grand à faire à Nîmes. Ouais. En voyant national, qu'ils ont une moyenne de 7000 spectateurs, c'est un club qui vit le football. Il vit les taureaux, mais il vit le football aussi. Et c'est un public connaisseur. Bon, mais ça s'est pas fait. Il y a une rivalité. Sinon, avec Loulou, on est amis. Nos femmes sont très amies. Et c'est dans la logique des choses que je l'accompagne, mais pas avec une fonction précise, que je sois un peu son conseiller, plus que son conseiller peut-être par rapport à une action de terrain, on verra ça. Mais
donc l'année prochaine, à cette époque-ci?
Non, jusqu'à la fin 2008, je compte rester à la fédération.
D'accord.
À partir du 1er janvier.
Très bien. Oui. Alors, le championnat, vous en pensez quoi, justement? Comment vous analysez les matchs actuels? On a un championnat, on le dit, très défensif, avec des entraîneurs qui ont souvent des options défensives par rapport aux championnats européens. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça?
Disons que dans la mesure où vous perdez vos meilleurs joueurs tous les ans, il est certain que, puisqu'ils vont tous ils continuent à aller à l'étranger, même si on disait que le contrat avec Canal permettrait de garder les joueurs en France. On s'aperçoit que c'est pas le cas. Donc si vous perdez vos meilleurs joueurs, on voit l'exemple avec Ribéry de Marseille, où l'équipe
Malouda
est la même.
Partie, ouais.
Voilà. Si vous perdez vos meilleurs joueurs, vous diminuez bien sûr la valeur de votre championnat. Par contre, l'avantage que ça représente, c'est que ça permet à des jeunes de s'exprimer beaucoup plus vite, donc d'avoir une expérience beaucoup plus grande quand ils vont entrer totalement dans le professionnalisme. Ça, c'est l'avantage. Par contre, par rapport à la qualité, moi j'étais content hier d'entendre le nombre de buts. Bon, il y a eu 19 buts hier soir, il y a encore deux matchs aujourd'hui. Il y a eu un seul match nul 0-0, même si des fois il y a des 0-0 qui sont des beaux matchs. C'est vrai que notre championnat, par rapport à cette image qui est donnée, qui se veut défensif, c'est pas une culture des entraîneurs. C'est pas une culture, c'est le problème de la qualité de vos joueurs au niveau technique, entre les liaisons milieu de terrain et attaquant. Si vous avez de très bons techniciens, si vous perdez pas trop de ballons au milieu, vous aurez un match qui sera agréable offensivement. Le problème, c'est comme une maison. Si vous n'avez pas les bonnes fondations, le toit peut être beau, et c'est au premier coup de vent, il va tomber. Donc la défense est primordiale dans le cadre de l'équilibre que vous recherchez de votre équipe, de la force de votre équipe, mais c'est l'impulsion offensive qui demain peut permettre d'avoir du spectacle. Or, pour moi, c'est la qualité technique de beaucoup de joueurs en milieu de terrain qui laisse à désirer.
Vous êtes confiant pour nos équipes engagées en Coupe d'Europe, là, parce qu'on va rentrer dans une semaine de Coupe d'Europe?
joker ou je sais pas trop, non, pour être très franc, non, pas joker, pour être très franc, je suis craintif, même si
comme tout le monde,
le résultat de Lyon hier fait que Lyon peut peut-être, à travers ce côté euphorique, retrouver une dynamique, mais ils ont déjà un gros morceau, ils vont à Barcelone et c'est là qu'on verra déjà quelles aptitudes ils montrent dans cette compétition. Mais pour l'instant, le championnat, Marseille ne nous met pas à l'aise dans ses prestations par rapport à ce que les exigences de la Coupe d'Europe. C'est autre chose. Comme l'équipe espoir par rapport à l'équipe A, c'est autre chose. Le championnat par rapport à la Coupe d'Europe, c'est un autre monde.
Oui, alors, on en parlait justement hier, quand on s'est vu. Il est bon pour un joueur de rester en compétition. Hein. C'est-à-dire qu'un joueur qui ne joue pas en sélection, il faut automatiquement organiser des matchs contre le bataillon de Joinville pour qu'il reste dans le rythme de la compétition.
Le bataillon de Joinville ou autre, on parlait des sélections.
Oui.
Là.
Oui, oui.
Alors, on l'a vécu avec Aimé Jacquet, puisque après le championnat d'Europe 96, où il a analysé, on avait d'abord fait une bonne prestation, on avait été demi-finaliste, même si perdant au coup de pied au but, même si l'image qui était donnée était plus négative souvent, mais en analysant, nous, on savait qu'on avait un groupe costaud, mais on a eu des joueurs blessés et les remplaçants n'ont pas été dans le rythme de la compétition. Ils avaient beau s'entraîner sérieusement, si vous n'avez pas des matchs, vous n'êtes pas dans le rythme. Mmh. Or, c'est pour ça qu'après la Coupe du Monde, on a été faire deux matchs au Maroc. Un groupe a joué un match, l'autre groupe a joué un autre match. Dans la foulée, on est parti en Finlande, l'équipe type a joué un match. Le lendemain, les remplaçants ont joué contre les champions. Et on a fait pareil pendant la Coupe du Monde au départ. Mm-hmm. Le premier match à Marseille contre l'Afrique du Sud, on a joué contre le club d'Arles le lendemain. Le deuxième match contre l'Arabie Saoudite ici à Paris, à Clairefontaine, à côté de chez nous ici, on a joué contre le bataillon de Joinville, dont vous parliez tout à l'heure. Mm-hmm. Ça veut dire que, et le troisième match, comme on était qualifié, tous les gars qui étaient remplaçants ont joué. Donc on a pu avoir ensuite, en quart de finale, demi-finale ou finale, quelques problèmes, et il y en a eu. Il y a eu suspension de Zizou, il y a eu suspension de Laurent Blanc, il y a eu quelques blessures avec plusieurs éléments et on n'a pas vu de différence sur le terrain. Mm-hmm. Parce que tous les joueurs étaient dans le rythme. C'est pour ça qu'on parlait hier de difficultés pour le rugby ou pour le foot dans l'équipe qui a joué l'Écosse. Il y a par moments aussi un côté poker quand vous faites jouer quelqu'un qui n'a pas encore fait un match de championnat ou qui est remplaçant dans son club ou qui a que des temps de jeu pas assez importants. Vous savez que sur le plan du rythme, il va souffrir.
J'aimerais qu'on parle maintenant de vos nouvelles activités, hein, le futsal et puis le biche.
Mes nouvelles activités, en 2004, quand je suis revenu du Portugal, toutes les sélections de jeunes, parce que pendant longtemps, jusqu'en 96, parallèlement à l'équipe de France, j'avais une sélection de jeunes aussi. Mm-hmm. Et en particulier les moins de 15 ans, en responsabilité technique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de championnat d'Europe pour eux, dont je fixais les dates dans des périodes où j'étais libre. Hein, c'était la facilité. Puis à partir de 96, Aimé Jacquet a souhaité que je sois totalement disponible pour l'équipe de France, donc c'est mes collègues qui ont pris l'ensemble des sélections. Quand en 2004, je me suis retrouvé à la disposition totale de l'ADTN, toutes les sélections de jeunes étaient prises. Mmh. Et Aimé Jacquet m'a dit à ce moment-là, écoute, ce serait bien que tu prennes en charge le foot diversifié. Alors le foot diversifié, c'est le foot des quartiers, c'est le futsal, c'est aujourd'hui le beach soccer. À l'époque, mm-hmm. il y a trois ans, il n'était pas encore avec nous, ça fait un an et demi qu'il a rejoint la fédération. C'est le tennis ballon, c'est le foot à deux, le jerky ball.
Oui, c'est le jerky ball. Hein. Ouais,
le jerky ball est une marque. Non, chez mm-hmm. nous, c'est le foot à deux, c'est le footy volley, c'est donc tout ce qui est hors du rectangle vert. Mmh. Alors, sachant que le foot des quartiers, c'est quelque chose que je découvrais un peu, que le futsal est entré à la fédération en 95, alors qu'il était en Espagne, il est entré en Espagne et en Italie au début de son développement en 36, c'est-à-dire 60 ans avant.
D'accord.
Ça veut dire que dans ces pays qui nous entourent, il y a déjà le professionnalisme et depuis très longtemps dans cette discipline, qui nous est une discipline nouvelle. Mmh. Donc il y avait quelque chose à lancer, parce qu'il y avait déjà depuis 1995 une action qui était menée avec l'équipe de France totalement amateur, mais Il a fallu, comme on n'a jamais demandé des gymnases, puisqu'on n'était pas, en activité au niveau futsal, tous les créneaux horaires étant pris, on ne pouvait pas arriver en disant, allez, vous nous laissez maintenant la place, des choses comme ça. Donc il y a toute une politique qui depuis est mise en place pour... et qui aujourd'hui amène une dynamique très forte. Et j'ai voulu organiser le tournoi à Bercy.
Ouais, c'était fort.
Il y a eu 5h30 de télévision sur Canal Plus Sport. Il y a eu dans tous les médias qui en ont parlé. Et les gens se sont régalés en voyant le spectacle. Donc c'était pour montrer au milieu professionnel qu'il est temps d'avoir une branche de futsal dans nos clubs. Mais là, il y a toute une politique.
Oui, je vous avais entendu sur RTL d'ailleurs.
C'est ça. Il y a toute une politique qui se met en place et qui se développe. Et tout à l'heure, je dirige un stage de responsable de régionaux, futsal, je suis responsable technique, plus tous les cadres féminins. Parce qu'on va lancer une grande action au niveau du foot féminin par rapport au futsal et une grande action au niveau de recyclage d'instituteurs, d'institutrices, de profs de collège, puisque si les gymnases sont pris le soir, dans la journée ils sont libres, et en amenant du matériel et en donnant quelques bases pédagogiques aux gens qui encadrent ces gosses, ben on peut penser demain qu'il y aura un gros développement. Moi, le développement m'intéresse par rapport à une discipline qui est agréable à regarder, mais en même temps, si les Brésiliens ont ce toucher technique, ils le doivent au bichoker et au futsal, puisqu'ils débutent tous par ça, et ce n'est qu'après qui vont vers le foot traditionnel. Donc, quand on parle de qualité technique, comme on en parlait tout à l'heure, mais le futsal, dans la maîtrise de ce qu'il peut nous amener, peut être un élément important pour faire progresser nos joueurs.
Oui, et puis une activité parallèle avec des fois des calendriers qui peuvent être aménagés, peut permettre de...
Moi, c'est même pas un rêve, je suis sûr que dans 2-3 ans, dans les périodes... équipe de France, comme on vient de la vivre, là où il y a 10 jours d'arrêt, vous aurez le style tournoi qu'on a fait à Bercy.
Bien sûr.
Peut-être qu'au mois de novembre, vers le 16 novembre, un tournoi va être organisé à Metz, peut-être. C'est dans les tuyaux, entre le club des internationaux, le club de Metz et le club de Nancy, plus une autre équipe. Et il faut qu'on arrive à déplacer et à développer ce style de confrontation qui sont intéressantes en même temps. Nous, il y a des accompagnateurs du Paris Saint-Germain. L'an dernier, on est convaincus, et Alain Kézak, on se téléphonait après chaque match, que c'est le tournoi de Bercy qui a relancé Paris Saint-Germain, puisque derrière, ils n'ont plus perdu. Ils ont perdu un match ensuite, mais ils ont eu toute une série qui leur a permis de remettre la tête hors de l'eau, parce qu'ils ont retrouvé le plaisir. Et les doutes qu'ils avaient sur eux par la confrontation avec les Zidane et compagnie, ça a été quelque chose qui les a libérés totalement dans leur tête. Ça a eu certainement un effet pour au niveau psychologique sur les joueurs.
Oui, parce qu'il y a une vingtaine d'années, il y avait un tournoi déjà de foot
c'était,
en salle
c'était
sur Bercy,
foot mais c'était en pas. Salle. C'était foot en ce qui est totalement c'était... différent, c'est que le foot en salle, vous pouvez jouer avec les côtés, les palissades, et ce sont des grands buts. Ça veut dire que vous pouvez tirer de partout. Le foot en salle, c'est une maîtrise technique, puisque vous êtes obligé de dribbler votre adversaire. On parlait de dribble pour France-Écosse. Vous devez dribbler l'adversaire pour aller vers le but. Alors, c'est un but de handball. Si vous frappez de loin ou hand, vous ne pouvez pas marquer. Donc il faut à tout prix se rapprocher du but, ce qui est totalement différent dans l'esprit. Le foot en salle, comme vous le soulignez, pour moi, il existe dans beaucoup de salles privées, mais c'est du foot loisir. C'est des gens de notre âge ou de votre âge, vous êtes un peu plus jeunes, qui peuvent le pratiquer plus que des jeunes joueurs.
Et le bishoker, ça peut devenir un jour sport olympique, hein?
Oui, ça va être en démonstration au prochain jeu. Disons que le bishoker était en dehors de la fédération. Et il y a un an et demi, les frères Canto ont souhaité se rapprocher de la fédération. Ça a été d'autant plus facile que, étant le responsable du foot diversifié, j'étais l'interlocuteur. Et Eric, je l'ai détecté, j'étais CTR à Marseille. On a quelque chose de fort entre nous, puisque c'est dans un match de détection où il y avait les possibles contre les probables pour faire l'équipe de Méditerranée, que les observateurs d'Auxerre ont été sur la main courante. Ils venaient pour voir un joueur et ils ont vu Eric. Mm-hmm. Donc ils me disent souvent, enfin à plusieurs reprises quand on en a eu parlé, heureusement que j'avais pas la grippe ce jour-là, sinon j'aurais jamais fait peut-être la carrière qui a été la mienne. Donc il y a eu ce rapprochement et aujourd'hui c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant parce que la tournée des plages cet été a été un très gros succès. Puisqu'elle était orientée totalement sur le beach soccer. Et il y a un engouement, l'an dernier, j'étais déjà à Marseille, donc c'est joli, ça fait un an et demi qu'ils sont avec nous, j'étais à Marseille dans la phase européenne, il y a eu un public curieux qui est venu, qui venait découvrir le beach. Cette année, il y a un public accompagnateur. Il n'a même pas été satisfait pour l'ensemble des gens, puisqu'il y a 2000 personnes qui étaient dehors, qui ne pouvaient pas entrer sur le terrain, qui était sur la plage du Prado, qui contenait 4500 personnes.
Ouais, on a eu des images.
Cette année, il y a eu un engouement. L'an prochain, on organise la Coupe du Monde. Il va y avoir un public style Marseille, style supporter, parce qu'il a accompagné, il a découvert, il a trouvé du plaisir. Beaucoup de femmes sont dans le stade. Il y a un côté convivial, il y a un côté spectaculaire. Il y a beaucoup de buts. Il y a des buts dans le football traditionnel. Là, il y a beaucoup de buts. Et les tacles, les charges sont interdits. Il y a tout un tas de règles qui font que le spectacle est au rendez-vous. Et c'est quelque chose d'intéressant. Pour moi, c'est un développement qui va être grand, mais pas pour faire des licenciés, ça ne nous intéresse pas, mais par rapport en particulier à la politique des quartiers. Ouais. C'est un investissement qui n'est pas cher par rapport à ce que représente un gymnase, ce que représente un terrain de tennis. Donc, je sais déjà, je suis allé inaugurer moi deux installations, une à Châteauroux, une à des terrains à l'année, une à Fécamp. Beaucoup de villes sont en train de faire l'étude de telles installations, ça va énormément se développer.
Un petit mot sur le foot féminin, vous y croyez ?
Mais le foot féminin, j'y crois bien sûr, dans la mesure où il y a des pays qui nous entourent où il y a 300, 400 000 pratiquantes. J'y crois parce que le développement en France est intéressant au niveau de l'élite surtout, parce qu'avec Clairefontaine, on arrive en faisant jouer les meilleurs beaucoup plus que la moyenne normale, on arrive à être meilleur, c'est sûr. On parlait de mon premier titre avec le temps, c'est que tous les soirs, je prenais les gars à l'entraînement. Et ils avaient une heure d'atelier qui sautait pour être à l'entraînement. Donc il n'y a pas de secret, quand vous travaillez vous êtes meilleur que les autres. Et dans notre élite qui est compétitive ne correspond pas à notre masse. C'est pour ça que je pense qu'une grosse opération avec le futsal peut être intéressante pour développer le nombre de filles qui peuvent, un nombre qui peuvent venir pratiquer le football.
Très bien. Henri, on a des personnes donc, qui assistent à cette émission, hein, et je sais qu'ils voulaient vous poser quelques questions. Donc je vais demander à Juliette eh bien, de venir poser une question donc, à Henri-Émile. Elle a fait le déplacement spécialement, Juliette. Hein. Alors Juliette, un petit...
Oui, je suis des amis du PSG. Bon, c'est vrai que je connais le foot depuis 85. Alors la question que je pourrais vous poser, c'est de savoir effectivement, est-ce que vous pensez continuer à aider le foot comme vous l'avez fait dans les années passées?
Oui, aider le foot, c'est certain. Dans une structure, dans un poste de président de district ou président de ligue, je ne pense pas que je le ferai. D'abord, ça sécurise les présidents qui sont en poste dans le Languedoc où je vais aller bientôt. Non, pourquoi? Parce que moi, je préfère l'action aux fonctions. Et par contre, au niveau de cette région où je compte m'installer dans un an et demi maintenant, je voudrais faire beaucoup d'actions avec les jeunes. En particulier, on parlait de beach soccer. Quand on voit toutes les plages du Languedoc, il devrait y avoir tout l'été, sur toutes les plages, des terrains de beach, justement, à l'année, comme on le voit au Brésil, où on a toute une barrière. Quand vous entrez sur la plage, parce qu'il n'y a que des gens qui sont en activité. Donc, si c'est vrai que les municipalités doivent accueillir les gens pour se reposer, c'est vrai aussi que faire que de la chaise longue ou d'être allongé, surtout les jeunes, je pense qu'on peut proposer autre chose. Donc, il y a des actions que je souhaite mener, ça c'est au niveau départemental. Au niveau national, tout dépendra de... Bon, avec Gérard Roulier, je sais qu'il n'y aura pas de souci de liaison par rapport à telle ou telle fonction. Tout dépendra des projets qui me seront proposés en tant que projet, en tant qu'engagement. Mais de toute façon, je resterai dans le football. J'ai failli venir au Paris Saint-Germain quand il y a eu le changement de structure, puisqu'il y avait trois projets. J'étais sur un des trois projets, sur celui qui était avec des entreprises françaises, mais je suis content pour Alain Quézat, qui est un ami, comme c'est un ami de Gérard Rouillet.
Mmh. Henri, un petit mot sur Michel Platini. C'est une bonne chose qu'il soit président de l'UEFA.
C'est une très bonne chose, non pas parce que c'est également un ami, oui, mais c'est surtout parce que c'est un technicien qui a su évoluer à travers l'organisation de la Coupe du Monde dans un rôle de responsabilité et dans les décisions qu'il peut prendre, dans les orientations qu'il peut donner. Il n'oublie pas le joueur qu'il a été. Donc il parle et il s'appuie sur un vécu, sur une expérience. Donc ça c'est important parce qu'on parle trop souvent de choses sans les connaître.
Ah oui.
Pour ça que sur l'arbitrage par exemple, on est favorable depuis longtemps, nous, et c'est bien que ce soit développé maintenant, à ce que les arbitres puissent être encore joueurs. Mm-hmm. Plus vous aurez la sensibilité joueur, plus vous serez à l'aise pour l'interprétation des choses ou la manière de diriger un match. C'est pareil avec Michel qui déjà a montré sa personnalité déjà dans le combat pour avoir le poste, parce que ça a été un vrai combat, puis aujourd'hui dans sa manière d'agir, hier il était là en voisin puisque il mariait sa fille à Claire Fontaine.
Ah,
vous voyez, c'est tout récent, il est peut-être pas levé encore le connaissant, mais bon, c'est quelqu'un de super. C'est bien qu'il soit à la tête de cette structure.
Il aura les moyens de ses ambitions.
Ben, les moyens financiers, les aura, ça c'est sûr.
Mais
les
moyens... il veut changer plein de choses.
Oui, mais d'abord, il faut, vous savez, dans le football, il ne faut pas être pressé.
Oui.
Donc, il y a des évidences où que vous pensez pouvoir faire un mois, il vous faut un an, deux ans. Mm-hmm. Donc ça, c'est une... il faut qu'il soit patient. Par contre, il sait convaincre. Hein. Il sait convaincre et je pense que quand la logique l'emporte, il faut que le sportif passe avant le financier.
C'est ça,
et c'est vrai que les clubs pro pensent plus à eux qu'à l'intérêt du football, souvent. Dans leurs décisions, mais je pense qu'il sera arrivé à convaincre que ses idées sont les bonnes et c'est quelqu'un qui sait écouter aussi, hein, qui sait remettre en cause une pensée qu'il peut avoir si on arrive à le convaincre.
Quelle carrière, il finira peut-être président de FIFA un jour.
Oui, mais c'est déjà bien. Je vous disais tout à l'heure, les titres, ce qui est important, c'est l'action dans le projet GOL, dont on parle pour aider l'ensemble des pays, qui est un projet important de développement. Mais c'est Michel qui a mis en place ce projet. Non, c'est Blatter qui aujourd'hui est l'homme qui est en avant, qui est également à Claire Fontaine, il était hier soir, qui est également en avant par rapport à ça, mais le projet, c'est Michel, ce qui est important, c'est le projet. Moi, si demain j'amène quelques projets, on ne parle pas de moi, je m'en fous. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait.
Bien sûr. Allez, on a entendu le Paris Saint-Germain, on va entendre les Verts maintenant. La Saint-Étienne, vous posez une petite question.
Oui, bonjour Henri. Est-ce que vous auriez aimé reprendre un club comme la Saint-Étienne?
Il a failli aller au PSG.
Vous savez, pour être très franc avec vous, Garonner m'avait été envoyé par le président de l'époque pour aller au club, pour signer au club. Et c'est vrai que j'avais pas de raison de. C'était la période où j'étais avec Michel Platini, si j'ai bonne mémoire, et j'avais pas de raison de partir, mais j'avais été honoré de cette chose. Aujourd'hui, ça se fera pas. Ça aurait pu se faire, alors aussi peut-être il y a deux ans, mais ça se fera pas parce qu'il y a mon fils qui travaille dans les structures du club, vous le savez, et il s'est fait un prénom et il n'est pas question que j'aille dans un endroit où il s'exprime bien, où il est apprécié. Et hier soir, j'étais content de la victoire des Verts parce que bien sûr, je suis les résultats du club. En plus, il m'a fait avec ma belle-fille deux petits Verts, deux petits Stéphanois, donc je suis le plus heureux des hommes avec ce club.
Enfin, soyez sûr d'une chose, avec toute la passion qu'on vous doit depuis longtemps, et puis qui plus est avec l'équipe de France, cette passion aurait encore grandi si on vous avait compté dans notre club chéri, quoi. Mais nous vous sommes dévoués comme nous sommes dévoués à l'AS Saint-Étienne.
Là où j'ai eu un regret, c'est pas pour moi, c'est pour Laurent Blanc. Quand l'an dernier, je pensais que le club s'intéresserait à lui, j'étais au dernier match qu'avait joué Saint-Étienne, j'avais vu le président Caillazo, j'avais dit pourquoi vous prenez pas Lolo, et je trouve que c'était dommage. Bon, même s'il faut toujours respecter les choix, c'est bien que Laurent, qui est passé par Saint-Étienne, soit aujourd'hui à Bordeaux, mais Ce qui était dur, c'était d'entendre, il n'a pas d'expérience. Les différents clubs, il n'a pas d'expérience. Si vous ne commencez pas un jour, votre expérience, vous ne la montrerez, vous la montrerez jamais. Encore faut-il qu'on vous tende la main. Voilà, mais c'est un club qui fait rêver, qui doit continuer à faire rêver. Et souhaitons que la saison soit une belle saison. Le résultat d'hier, alors que les deux arrières centraux titulaires n'étaient pas là, a été un très beau résultat. Et ben, il faut continuer avec les Verts.
Voilà.
Ils viennent bientôt à Paris. Non, c'est ils jouent contre Marseille.
Ouais, c'est ça. Ouais. Il nous reste deux petites minutes, Henri. Alors, d'abord un petit mot sur ce qui va se passer aujourd'hui. Le Variété qui vient, c'est la troisième fois que le Variété vient à Poigny. Hein.
Oui, la première fois, c'était pour l'inauguration du stade dont j'ai la fierté qui porte mon nom, puisque les gendarmeries et son maire en premier avaient souhaité m'honorer à travers cette chose-là. Donc, on avait fait un match contre le Variété au grand complet. Platini avait joué.
Tout le monde.
Par amitié, il y avait Jean-Michel Larquet, il y avait Yannick Noy, il y avait eu beaucoup de participants, et c'est vrai que ça avait été un grand plaisir pour moi, puisqu'on avait fait une sélection de la direction technique, où là aussi tous les entraîneurs nationaux, Démé Jacquet, Raymond Domenech,
Roger Lemaire, tout ça,
tout le monde était présent. Jean-François Jodard. Et disons, ça a été une journée du souvenir qui a été super. Après, ils sont revenus. Maintenant, ils restent un peu fidèles à Poigny. Ce qu'il faut voir, est-ce qu'on peut continuer à présenter de tels plateaux. C'est pas toujours évident pour l'organisation. Notre grand responsable de la mairie se casse à la tête tous les ans.
Il vous embête, je crois savoir.
Non, c'est pas embêté. Disons que moi, je suis réaliste, étant de l'intérieur, sur ce qui est possible et pas possible. Ouais. Donc, il y a des projets qui sont difficiles à mettre en place. On voudrait faire plaisir, on voudrait répondre à l'attente des gens, mais c'est pas toujours évident.
Et puis, on parlait tout à l'heure des actions caritatives de France 98. C'est bien que le sport serve pour de telles actions, moi.
Mais là, on le dit, on en parle, parce que, mais vous savez, tous les joueurs ont des associations, tous les joueurs s'engagent parce que c'est normal, parce que c'est quelque chose qui doit nous toucher. Et il y a une générosité naturelle, pas financière, naturelle de l'homme par rapport à tout ça. Donc c'est logique que les joueurs soient derrière ça.
Très bien, merci en tout cas, Henri, d'avoir été notre invité. On a été contents de partager cette heure d'émission avec vous et puis d'avoir passé tant d'années à vos côtés. Hein. Et puis, si on veut acheter votre maison, on peut le faire. Hein.
Oui, je suis encore dedans, mais si quelqu'un est intéressé par une maison qui donne sur la forêt, qui a 6 mm carrés de terrain, il y a de quoi faire pour ramasser les feuilles, on m'appelle au centre technique, ou on appelle votre radio et vous donnerez mon numéro.
On jouera les agents immobiliers, Henri.
Voilà, merci.
Merci. Voilà, merci en tout cas donc à Henri Emile. Alors, on voulait vous faire un petit plaisir encore pour cette première émission Tribune Foot de l'année. On va vous rediffuser l'interview de Raymond Coppa. C'est un véritable monument du sport et du foot français qu'on ne vous présente plus. On l'avait interviewé donc le jour de cette remise, le 29 novembre dernier. Et vous allez voir, Raymond, il reste toujours autant passionné par le ballon rond. Raymond, pour l'ensemble de votre carrière, un prix national du fair play, je suppose que c'est quelque chose qui vous interpelle.
Tout à fait. Dans mon musée de footballeur, il y a une très très grosse place. Oui, effectivement, je suis très très heureux d'avoir reçu ce trophée. Et qui complète effectivement ma longue carrière finalement, puisque j'ai quand même fait 20 ans de professionnalisme. Mais j'ai toujours eu effectivement un grand respect pour les adversaires, les arbitres, disons, même s'ils ne m'ont pas toujours protégé. Mais enfin, dans l'ensemble, je peux dire que j'ai jamais blessé un joueur. J'étais sorti une fois, c'est une anecdote, du terrain. C'était dans un match amical au Mans, puisque j'étais joueur du professionnel de SCO d'Angers. Et à un moment donné, l'arbitre, qui s'appelait Jeudi, je me rappellerai toujours Jeudi, en plus on est jeudi aujourd'hui. Mais enfin, l'arbitre d'un seul coup me dit, mais sortez. Il dit, c'est à moi que vous adressez. Oui, sortez. Il m'a sorti du terrain, alors j'ai jamais su pourquoi. Voilà, c'est la seule fois que j'étais sorti d'un terrain de football par un arbitre.
Raymond, vous auriez aimé être joueur professionnel de nos jours?
aujourd'hui, oui, moi j'ai toujours été un passionné du foot, beaucoup moins pour le regarder, mais même aujourd'hui j'aurais aimé le jouer, mais comme je le dis toujours à Michel Platini quand je le rencontre, je mets la vidéo, ça fait 6-7 ans que je demande la vidéo, comme au tennis, comme au rugby, parce que là on aidera l'arbitrage, mais aussi on aura un football un peu peut-être plus propre.
Oui. Comment vous voyez les matchs? Vous les trouvez ennuyeux, fermés aujourd'hui? Les données tactiques sont encore plus importantes qu'à votre époque. Hein.
Mais n'attaquons pas trop le football actuel. Le gros problème, c'est qu'en France, actuellement, les bons joueurs partent à l'étranger. Et effectivement, on a quelques bonnes équipes, très peu, pas assez. Je cite surtout Lyon qui a cet avantage-là. Mais moi, ce qui importe, c'est de voir un football. Quand je regarde un match, c'est effectivement de voir un beau football. Mais faut-il en être capable?
Est-ce que vous avez l'occasion de revoir tous les anciens de 58 et ceux de votre génération, ceux de 60, 62?
Ça arrive. Ouais. Oui, tout à fait. On est un peu tous dans toute la France, mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Ceux qui ont plus de 70 résistent, mais malheureusement, on a 4 disparitions sur 22. C'est pas si mal.
Et je crois savoir, vous avez joué très longtemps au foot, vous avez continué après, même parmi les équipes de vétérans. Hein.
Bien sûr. Je me suis arrêté à 70 ans. Oui. D'ailleurs, j'étais content parce que cette anecdote que j'ai encore, c'est que ils étaient pratiquement bien souvent obligés de me frapper par derrière. Mais j'étais content. Quand je me retournais, je leur disais, je t'ai pas fait mal. Mais... Et en plus, ils étaient obligés de le faire. Mais le jour qu'ils ne font plus, j'ai toujours dit, c'est que je suis cuit.
Merci Raymond. Merci à Raymond et merci à toutes et à tous d'être restés en notre compagnie à travers nos best-of pour ces fêtes de fin d'année. Et puis nous, on se retrouve donc la semaine prochaine dans Tribune Sport et Tribune Foot avec cette fois-ci des invités en chair et en os. On va vivre une année sportive 2008 exceptionnelle. On vous espère aussi nombreux pour nos rendez-vous que vous l'avez été au cours de l'année écoulée. Voilà, bon dimanche, bonne semaine, et on vous laisse avec Radio Village, pour qui c'est la première de 2008 le matin. Salut, bon dimanche.
Bon dimanche, RVE, il est 11h.